Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Air Open, le podcast tennis de l'équipe. Pour ce troisième numéro de la saison 2024, on va s'intéresser au revers à une main. Ça n'a échappé à personne dans le monde du tennis. Le 19 février dernier est devenu une date historique avec la sortie du top 10 de Stefanos Tsitsipas pour la première fois depuis la création du classement ATP en 73. Aucun membre de l'élite ne joue avec un revers à une main. Autrefois plébiscité, ce coup est devenu une espèce en voie de disparition. Parmi les 100 meilleurs joueurs du monde, ils ne sont que 11 à utiliser ce coup. C'est pire, côté féminin, elles ne sont plus que 3. Mais pourquoi donc ce revers qui nous a fait vibrer ou nous fait vibrer chez les Gasquet, Federer, Wawrinka, Hénin, Mauricio, Edberg, Graf, McEnroe et tant d'autres est-il boudé aujourd'hui par les meilleurs? A-t-il encore un avenir sur le circuit? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés deux fins connaisseurs de l'histoire du tennis, Julien Reboulet, responsable de la rubrique tennis à l'équipe. Bonjour Julien.
Bonjour Maxime.
Revers à une main ou revers à deux mains pour toi?
À une main, évidemment.
Il le sauvegarde, il le préserve. Vincent Cognier, grand reporter de l'équipe depuis de nombreuses années, est également avec nous. Bonjour Vincent, même question que Julien, une ou deux mains?
Demain, mais en un mot, demain.
Et nous avons la chance d'être en ligne avec Laurent Raymond, membre de la FFT, entraîneur de Coupe Davis notamment, mais aussi entraîneur à disposition des joueurs français. Si mes informations sont bonnes, Laurent, tu as été moins 30 à l'époque où ce classement existait encore, avec un revers à une ou à deux mains?
Bonjour, alors non, moins 15 d'abord, et revers à une main.
Revers à une main.
Un de plus.
Moi j'équilibre, j'étais à deux mains, donc ça va, on est à peu près à l'équilibre. Voilà, vous avez le programme de cet épisode 3 d'Air Open, alors c'est parti. Messieurs, avec la retraite de Roger Federer, on a perdu l'étendard du revers à une main. On a cité Tsitsipas, Gasquet, Wawrinka, on peut rajouter Dimitrov, Thiem ou Musetti, mais ce coup tend clairement à disparaître. Pourtant Vincent, je me tourne vers toi, il a longtemps été la norme dans le tennis, au début du tennis.
Oui, en fait, tout le monde est focalisé à juste titre sur 1974. C'est vraiment le triomphe du revers à deux mains, avec les titres de Connors qui fait le petit chelem et Borg qui gagne Roland-Garros et Evert qui fait le doublé Roland-Wimbledon, ce qui fait que 6 des 8 titres du Grand Chelem en 1974 sont gagnés par des revers à deux mains. Mais en fait, il y a eu des précurseurs. J'ai plongé un peu dans les archives et j'ai retrouvé qu'il y avait deux joueurs australiens au début, enfin à la fin des années 30. Le premier s'appelle Vivian McGrath et le deuxième s'appelle John Bromwich, qui ont gagné l'Australian Open avec des revers à deux mains, le premier en 1937. Donc c'est le premier titre historique du deux mains, c'est 37 en Australie. Bromwich a gagné en 39 et 46, il a aussi fait finale à Wimbledon en 48. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans son bouquin, cette phrase aura une importance pour ce que j'ai raconté par la suite, Henri Cochet parle qu'ils ont bousculé les préceptes sacro-saints de la technique officielle. Alors c'est officiel qui compte, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, il y a un trou jusqu'au milieu des années 60, où il y a un joueur qui s'appelle Cliff Drysdale, qui est dans les 5 ou 6 premiers mondiaux. Il n'y a pas de classement ATP à l'époque, mais il est dans les 5 ou 6 premiers mondiaux. Il fait 2 finales à Roland, 2 finales à Wim, une finale à l'US Open avec un revers à deux mains. Mais bon, ça va pas beaucoup plus loin.
Ouais, autour, tout le monde jouait à une main à l'époque.
Tout le monde jouait à une main. Il y a un Italien aussi qui s'appelle Merle Beppo, je crois, qui joue à deux mains. Mais c'est vraiment 1% ou 0,5% du circuit qui joue à deux mains. Et en fait, le revers à deux mains n'est pas ni moqué ni honni. Il est regardé un peu comme une bizarrerie, mais il est pas. On ne cherche pas à se moquer de ce coup, sauf à la DTN française, où on a affaire à deux personnes que je ne citerai pas, extrêmement, par pure charité, extrêmement dogmatiques, et qui, en fait, considèrent qu'un revers à deux mains, c'est pas possible, quoi. C'est tout simplement pas possible. Et donc, cette DTN va forcer deux espoirs du tennis français à passer à une main. Le premier, c'est Georges Goven, mais qui réussira quand même sa carrière, puisqu'il atteindra les demi à Roland en 70, ce qui est pas mal. Et l'autre, c'est ce pauvre... Alors je prends mes notes, parce que c'est quand même impressionnant. C'est ce pauvre Hervé Gauvin, donc presque l'homonyme de Goven, qui était 3-6 à 13 ans. Et j'ai retrouvé des notes dans Tennis de France d'octobre 73, dans lequel on dit « Gauvin possédait un coup extraordinaire, un coup qui tue, dans lequel il avait une confiance illimitée. » Et son revers à une main n'avait en revanche aucune efficacité. Et donc la DTN a quand même obligé ce pauvre Gauvin à passer un revers à une main. Résultat des courses, il n'a jamais fait mieux que 150e à l'ATP. Et son entraîneur dit qu'il a été sacrifié par la DTN. En fait, il a été sacrifié sur l'autel du dogme, quoi.
Heureusement, depuis, ça a changé. Les
oui, alors visiblement, d'après ce que j'ai compris, à partir de 1974, la DTN a fait marche arrière. Bon. Dieu merci.
Et Laurent, 74-75, est-ce que ce n'est pas à peu près le moment où toi, tu commences à jouer au tennis? Et quel est ton souvenir du positionnement qu'on avait à cette époque-là sur le revers à une main, le revers à deux mains? D'autant que, si je ne me trompe pas, ton idole avait plutôt un revers à deux mains et s'appelait Björn Borg.
Oui, alors bon, je pense qu'effectivement, c'est la période et je pense le passage où on a laissé libre choix et laissé parler un peu plus le naturel des joueurs pour des joueurs qui avaient des revers à une main et des revers à deux mains. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir, je pense, une prédominance de revers à deux mains déjà par le fait que, comme le disait Vincent, dans les années 74, Borg, Connors, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs en tous les cas des joueurs emblématiques qui étaient sur des revers à deux mains. Donc forcément, le haut niveau reste une référence et avec une influence derrière et une remise en question sur l'enseignement et la pédagogie.
Julien, toi, tu as trouvé quelques chiffres en préparant ce podcast pour montrer l'évolution du revers à une main. Il y a clairement une bascule vers le revers à deux mains à un moment donné assez précis dans l'histoire.
Oui, parce que si à la fois Connors et Borg portent très très haut le revers à deux mains avec des carrières fantastiques, finalement, au plus haut niveau, ça reste assez exceptionnel puisque notamment avec l'année 1989 qui est assez amusante puisqu'on a à Roland-Garros le titre d'un côté pour Michael Chang et de l'autre côté pour Arantxa Sanchez, donc tous les deux très jeunes à l'époque et tous les deux avec un revers à deux mains. Et Chang, en fait, à l'époque, n'est que le quatrième joueur avec un revers à deux mains à gagner un grand chelem dans l'ère open, puisque outre Connors et Borg, il y avait juste eu Mats Wilander jusque-là. Donc c'est encore tout neuf, même en 89, c'est-à-dire 15 ans après, finalement, les premiers titres du grand chelem pour les grands revers à deux mains. Et idem, encore pire chez les filles quelque part, puisque Arantxa Sanchez n'est que la troisième après Chris Evert et Tracy Austin. Et on voit vraiment que dans les années 90, effectivement, la bascule se fait vers le revers à deux mains, au point que si on reprend simplement les palmarès des tournois du Grand Chelem, en gros, les 23 ou 24 premiers de l'ère open entre 68 et 73 sont complètement confisqués par des une main, alors que récemment, c'est quasiment l'inverse, puisque chez les hommes, 47 des 55 derniers titres du Grand Chelem ont été remportés par des joueurs avec des revers à deux mains. Les seuls qui ont un petit peu réussi à sauver quelque chose, c'est Federer, Wawrinka et Thiem. Et chez les filles, c'est encore plus marqué, puisque là, on est à 88 des 98 derniers titres du Grand Chelem pour des revers à deux mains. Et là, les trois seuls qui ont réussi un peu à imposer leur revers à une main s'appellent Justine Hénin, Amélie Mauresmo et Francesca Schiavone, qui est la toute dernière en 2010, ça fait quand même un bail, à avoir remporté un Grand Chelem avec un revers à une main. Donc là, très clairement, aujourd'hui, entre ces chiffres-là et la très faible proportion que tu as rappelé, Maxime, de joueurs et joueuses à une main dans le top 100, on est quand même a priori en train de se diriger vers la disparition du revers à une main.
Mais j'ajoute juste qu'il y a des exceptions ponctuelles de joueurs qui passent de revers à deux mains de leur jeunesse à un revers à une main pour leur carrière pro, très souvent sous l'impulsion de leur entraîneur de jeunesse. Et les quatre exemples les plus connus, c'est Sampras, qui a été poussé par son mentor Pete Fisher à passer à une main parce que son idole c'était Lever et qu'il n'imaginait pas qu'on puisse jouer un tennis d'attaque à deux mains. Edberg, Thiem et Krajicek. Voilà, quatre joueurs qui sont passés du deux mains à une main et qui ont, si je ne dis pas de bêtises, chacun gagné au moins un tournoi du Grand Chelem.
Récemment, il y a un exemple chez les filles, il y a Tatiana Maria qui jouait à deux mains, qui a fait une pause pour accoucher de son premier enfant et qui, lorsqu'elle est revenue sur le circuit, a troqué son revers à deux mains pour un revers à une main. Et derrière, elle a gagné trois titres notamment et fait une demi à Wimbledon. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ce côté-là. Laurent, on va profiter de t'avoir avec nous pour aborder un petit peu plus la partie technique. Est-ce que tu pourrais nous détailler les avantages d'abord et ensuite les inconvénients aujourd'hui du revers à une main?
Alors oui, comme vous disiez, hein, on voit de moins en moins de revers à une main. Effectivement, aujourd'hui, on n'a plus de joueurs dans le top 10 sur un revers à une main. On en dénombre, sur les 50 premiers, en fait, on en dénombre aujourd'hui 5. Les 5, alors ce sont les deux qui avaient rallié le top 10 qui ont reculé, c'est Tsitsipas et Dimitrov. Et ensuite, on a un Musetti, on a un Newbanks, on a un Evans. Voilà les cinq joueurs aujourd'hui qui sont dans le top 5. Alors, ce que l'on s'aperçoit, c'est finalement un garçon comme Tsitsipas et Musetti, je parlerai un peu plus de ces deux, qui aujourd'hui ont reculé au classement, Et en fait, il recule au classement parce qu'il y a un réel point faible qui est, il faut le dire, le revers. Et avec le temps, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a été beaucoup plus appuyé, en tous les cas ces dernières années, d'un point de vue tactique, à coincer ces joueurs sur le revers. Donc, très nettement, ces joueurs, aujourd'hui, sont coincés côté revers et en font même une psychose. Je peux donner un titre d'exemple parce que j'étais à Dubaï la semaine dernière avec Arthur Cazot et il joue Musetti. Et effectivement, bon, la tactique était de le coincer côté revers, c'est ce qui a été fait. Et Musetti, à un moment donné, s'est retourné vers son entraîneur en faisant un geste de revers à deux mains en lui disant « Mais si j'avais eu un revers à deux mains, je serais pas dans cette... Dans cette difficulté que je rencontre tout de suite. » Voilà. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que pourquoi les joueurs se font coincer, hein, c'est essentiellement dû à, un, la raison principale, c'est l'accélération du jeu. Les joueurs jouent clairement plus fort et plus vite. Et deux, surtout, et c'est là où ça coince le plus, c'est en retour de service. Voilà. Parce que l'utilisation de cette deuxième main a une importance colossale pour vite bloqué en retour de service quasiment sans préparation et en se servant de cette deuxième main comme si la raquette était serrée dans un étau. Et idem dans le jeu de fond de court, dès l'instant où le jeu commence à s'emballer ou ça joue vite, et ben les joueurs sont capables de s'organiser plus vite et d'exécuter plus pour en fait se servir de la vitesse de la balle adverse et de contrer. Voilà. Sans compter derrière ça que dans le jeu, dès l'instant où il y a des possibilités et du temps, et ben les joueurs mettent du volume sur leur revers pour faire reculer ses revers à une main. Et à partir de ce moment-là, le jeu est pris. Le jeu est pris.
Prend l'avantage.
En compte en avantage et à diriger le jeu derrière.
La caricature, c'est Nadal contre Federer.
Bien sûr.
Voilà. Tout est dit.
J'allais volontairement poser la question un peu provocatrice. Est-ce que Nadal a fait beaucoup de mal au revers à une main, Julien?
Ben, alors c'est amusant parce qu'on peut se poser cette question. Il y avait même une rumeur qui courait que Nadal avait travaillé son coup droit croisé très haut pour se préparer à affronter, parce qu'à l'époque ça paraissait être peut-être son adversaire principal, Richard Gasquet au cours de sa carrière. Finalement ça lui a beaucoup servi contre Federer et effectivement ça a à un moment donné posé énormément de difficultés à Roger Federer. Sauf que ce même Federer a prouvé en 2017 qu'il pouvait trouver avec son revers à une main une vraie riposte à cette tactique-là, puisque c'est sans doute la meilleure année de son revers 2017. C'était incroyable, que ce soit en contre, en accélération, en chop. Il avait trouvé des solutions qu'il ne trouvait pas avant. Est-ce que c'était un peu grâce à l'aide aussi de Ivan Ljubicic, qui était à ce moment-là à ses côtés et qui est quelqu'un qui avait une technique sans doute inférieure à ce qu'il a réussi à faire dans sa carrière, parce que lui a beaucoup réfléchi à sa façon de jouer au tennis et notamment à utiliser son revers qui n'était pas fantastique techniquement. C'est possible qu'il l'ait aidé à ce moment-là. D'ailleurs, je rappelle qu'Ivan Ljubicic est aujourd'hui à la Fédération française de tennis, donc on demandera à Laurent s'il pense que ça peut avoir une influence ou pas sur l'apparition de nouveaux revers à une main, ou en tout cas le développement de revers à une main. Mais Federer avait trouvé des solutions sur son revers à une main. Maintenant, effectivement, personne avec un revers à une main ne pouvait se sentir vraiment à l'aise contre Nadal sur terre battue.
Laurent, j'aimerais qu'on revienne avec toi sur les avantages du revers à une main. Tu me dis si je me trompe, mais ça apporte beaucoup de variations, beaucoup d'angles. L'utilisation plus simple, notamment au démarrage quand on est jeune, du slice, et plus de facilité aussi à la volée. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter?
Non, c'est exactement ça. C'est que celui qui a un revers à une main, déjà, il doit impérativement maîtriser parfaitement le revers coupé. Parce que il y a des situations où, en termes d'organisation, il n'a pas le temps, donc ce revers coupé doit être utilisé. Celui qui l'utilise certainement le mieux, là, parmi ces cinq joueurs qui sont dans le top 50, je pense qu'on peut citer Evans. Evans qui lui a un revers coupé qui est qui est exceptionnel, mais n'empêche que ça reste quand même une filière qui est utilisée contre lui, de chercher à le coincer, à prendre le jeu, notamment par des coups droits et pour des droitiers de décalage sur son revers, parce que son revers à une main, il faut qu'il soit vraiment à bonne hauteur, et globalement, c'est ça qu'il faut dire, c'est sur les revers à une main, il faut que les joueurs l'apprennent vraiment à une bonne hauteur, une hauteur de confort qui se situe à peu près au niveau de la hanche et un peu au-dessus, pour pouvoir décrocher des accélérations comme on a pu le voir, bien évidemment, avec un garçon comme Dimitrov ou un garçon comme Gasquet. Mais je pense qu'intéressant à dire aussi, c'est sur ces revers à une main qui se sont exprimés et qui ont gagné des grands chelems, des garçons comme Wawrinka, c'est un bon exemple. En fait, ce sont des joueurs qui ont trouvé de la place, parce que ce sont des joueurs qui étaient puissants et en fait qui frappaient lourdement en étant loin de la ligne de fond.
Comme Dominic Thiem.
Exactement, et Dominic Thiem faisait partie de cette catégorie-là. Mais aujourd'hui, on voit plus de joueurs qui trouvent la place à pouvoir frapper fort du fond, parce que il y a des parades, il y a quand même des parades aussi à ça dans le jeu, en sortant beaucoup plus les joueurs. Mais voilà, pour revenir en fait, effectivement, à ce revers à une main, effectivement, des avantages, c'est qu'on peut utiliser, on peut créer des accélérations un peu plus facilement que quand on a du temps et à bonne hauteur à une main. On peut utiliser plus d'angles pour y mettre, parce qu'on arrive à avoir une action de main qui est plus libre, donc où on peut plus gratter dans la balle. Ça amène à avoir une bonne main pour en développant le chop, donc l'amorti et donc aussi la volée. Très souvent, un joueur qui a un revers à une main est un bon volleyeur. Evans, c'est un bon volleyeur. Dimitrov, on s'aperçoit que aussi c'est quelqu'un qui maîtrise bien les choses à la volée, ainsi que Musetti et Titi Pass aussi.
Et Federer l'était évidemment également.
C'était même la référence pour le reverse-lace, c'est quasiment. J'ai pas connu Ken Rosewall, mais je pense qu'en termes de reverse-lace, on peut difficilement faire mieux que Federer.
J'aimerais qu'on aborde, messieurs, l'aspect de l'évolution du matériel, et on découlera derrière sur la formation des jeunes au revers à une main, parce que c'est peut-être un petit peu lié. À l'époque, le passage des raquettes en bois, notamment à celle du graphite, comment on peut expliquer le recul du revers à une main avec ce changement de matériel, Julien ?
Mais sachant qu'à la limite, on pouvait imaginer l'inverse, parce que les grandes raquettes en bois très lourdes, avec un seul bras, pour manier la balle, c'était peut-être moins évident. Donc il y a eu ce passage au graphite qui aurait pu faciliter, mais il y en avait encore eu, des revers à une main à ce moment-là qui fonctionnaient très bien. Et c'est vrai que ça, c'est une question peut-être pour le technicien, Laurent. Le matériel aurait dû favoriser, non, l'émancipation du revers à une main, en tout cas l'élargissement du champ des possibles avec une raquette plus maniable, ou c'est pas comme ça que ça a été vécu?
Alors oui, le matériel, en tous les cas, effectivement, aujourd'hui, est adapté par rapport aux gabarits et aux enfants. Donc, il favorise du fait que ces raquettes sont plus légères, sont beaucoup plus courtes, voire extrêmement courtes quand ils sont très jeunes, avec des balles qui sont plus légères. Donc, on voit effectivement des revers dans le quand on regarde sur les cours et dans l'enseignement et la pédagogie, on voit de très bons revers à une main. Alors, parallèlement à ça, aujourd'hui, c'est un sport qu'on joue de plus en plus tôt, et aussi le naturel de l'enfant amène, même si cette raquette est plus légère, même si la balle est plus légère, à utiliser tout de suite naturellement sa deuxième main. On peut le voir même très facilement sur les couloirs. Alors ça, on fait lâcher assez vite, et ça, c'est assez facile à faire, mais après voilà, celui qui a un revers à deux mains, et ben on lui laisse la deuxième main, et celui qui a envie de l'exécuter une main, et ben on lui laisse également cette main libre.
Si je me trompe pas, la tête de passage au pôle de Poitiers, où il y a une quinzaine d'espoirs français, est-ce que là-bas il y a des revers à une main encore?
Alors effectivement, je suis actuellement à Poitiers, où sont regroupés les meilleurs 2008, 2009, 2010, et il y a même un 2011. Ils sont 16 joueurs, et sur les 16 joueurs, eh bien, on est à peu près dans l'échantillon, il y a deux revers à une main. et qui sont beaux. Alors, de dire juste qu'ils sont bons, ça, c'est encore une autre étape. Mais voilà, et voilà, ces joueurs-là, on ne va pas les faire passer à deux mains, bien évidemment. Et puis, bon, voilà, on dit qu'il y a moins de revers à une main, mais il y a encore de la place pour ceux qui ont revers à une main. La preuve, c'est que c'est à peu près, ça représente à peu près 10% des joueurs. Voilà, tout en sachant que ça représente certainement un peu l'échantillon de ce qui se passe dans la formation où il y a à peu près un dixième de joueurs qui sont à une main et 90% qui sont à deux mains.
Et justement, Laurent, ce revers à une main qui est difficile à maîtriser, qui demande beaucoup de puissance dans le bras et dans l'épaule, est-ce qu'il n'est pas difficile à mettre en place chez les jeunes, chez les jeunes qui jouent très bien, où il y a très vite un impératif de résultats si on veut être repéré par les ligues, si on veut intégrer les meilleurs clubs, les meilleurs entraînements? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de certains potentiels parce que le revers à une main met plus de temps à se développer et il est prêt chez le joueur vers 16-17 ans et il est peut-être là trop tard pour un jeune, malheureusement, pour le faire évoluer derrière?
Ben, je pense que là, c'est ce que l'on fait de toute manière, c'est qu'il faut savoir donner du temps à des joueurs qui répondent à pas mal de cases. Et effectivement, un revers à une main demande un peu plus de temps dans la mesure où il faut être plus fort physiquement, il faut être plus gainé, faut avoir un peu plus de bras, un peu plus d'épaule. Voilà, mais ça, ce sont des choses qui se voit bien, et puis il faut savoir leur donner du temps. Mais après, dans ces revers à une main, on s'aperçoit que ce sont souvent aussi des joueurs qui s'appuient sur un ou deux coups qui sont, on va dire, un peu supérieurs à la moyenne. Par exemple, comme un garçon comme Titi Pass, hein, qui est vraiment aujourd'hui, qui fait même un blocage côté revers. Hein, je le vois au fur et à mesure des tournois avec des conseillers divers et variés pour essayer de trouver des solutions. Derrière ça, un garçon comme Titi Pass, c'est un serveur quand même hors norme et avec un coup droit exceptionnel, avec une capacité à tourner ce revers qui est fabuleuse, et aussi être capable de pouvoir rejouer et relancer fort lorsqu'il reçoit des balles plein coup droit en bout de course. Voilà, donc ces joueurs-là, on doit leur développer des armes fortes, qui sont bien évidemment le service, ça c'est incontournable, et le coup droit dès l'instant où ils ont un revers à une main. Et bien évidemment, trouver des solutions sur le jeu lorsqu'il vient vite, et je pense surtout au retour de service, où c'est souvent l'endroit qui est le plus problématique.
Pour la dernière partie de ce podcast, messieurs, j'aimerais qu'on s'attarde sur un dernier thème, sur l'avenir de ce coup. Nicolas Mahut a confié récemment à notre confrère Quentin Moinet: « Je pense qu'on a atteint une limite. Aujourd'hui, les joueurs jouent déjà au ping-pong. Sont-ils capables de prendre la balle encore plus tôt? J'ai du mal à me projeter sur une évolution dans ce sens-là. Je pense qu'on peut revenir sur un tennis plus varié. » Julien, est-ce que tu partages l'optimisme de Nicolas Mahut, ou est-ce que ce coup est selon toi voué à disparaître ?
J'aimerais être optimiste, mais c'est assez dur à imaginer aujourd'hui. Après, on peut toujours être surpris par les évolutions du jeu. Est-ce qu'on n'ira pas vers des joueurs qui feront parfois une main, parfois deux mains, qui sauront faire les deux? Au dernier tournoi des petits As, on a même vu un petit Américain qui ne fait que des coups droits, il change de main. Donc là, on est encore sur autre chose. Il faut jurer de rien, mais la tendance est quand même assez lourde aujourd'hui pour s'inquiéter de la résistance de ce coup qui, au-delà... au-delà des grands souvenirs qu'il a laissés dans l'histoire, il reste un coup, comment dire, à la fois très esthétique, presque poétique, avec... c'est Justine Hénin qui parlait de son revers à une main en disant que quand elle lâchait son revers à une main, comme il y a cette ouverture des deux bras, finalement, il y avait un sentiment de liberté qui l'habitait quand elle lâchait son revers long de ligne, notamment. C'est, voilà, c'est des choses qui, à la fois, sont ressenties par ceux qui font ce coup et par ceux qui le regardent, donc... Ce serait vraiment dommage qu'on ait plus ce genre d'extase de voir des revers incroyables et qui font faire à tous les publics des « waouh ». Voilà, on est surpris par ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des diagonales de revers à deux mains qui durent très longtemps et qui se ressemblent beaucoup, on n'a pas ce sentiment de création qu'on peut ressentir à d'autres moments.
Vincent, pour prolonger un petit peu les propos de Julien, Aujourd'hui, si on doit citer les 10 plus beaux revers du circuit quasiment, la majorité seront des revers à une main, que ce soit Gasquet, Wawrinka, que ce soit Diane Paris chez les filles.
Oui, c'est parce qu'en fait, on dépasse les côtés objectifs. On est dans le subjectif, le sentiment, l'appréciation de l'esthétique. Je veux dire, je pense que pour 90% des aficionados, le revers long de ligne à une main, c'est quand même le coup le plus beau, avec peut-être la volée rétro, mais c'est le coup, quoi. Donc, effectivement, je prends un contre-exemple, c'est Zverev, que je trouve qu'il y a un revers fantastique, très beau et super efficace. Personne dans la rue ne parle du revers de Zverev.
Non.
Alors qu'on croise son boucher ou son boulanger, et il suffit qu'il soit fan de tennis, et « Ah, oh, Gasquet,
Richard,
son revers long de ligne. » Je veux dire, c'est une réalité. Mais qui repose sur une esthétique. Mais bon, moi je comprends, je préfère avoir une main, je pense que beaucoup de gens partagent mon avis, quoi. En termes de beauté, de geste, d'émotion du geste, de poésie du geste. Julien parlait de poésie, mais c'est assez bien vu. De poésie du geste, il n'y a pas photo, quoi.
Laurent, on a Tsitsipas ou Diane Paris qui disent qu'ils ont choisi, en tout cas qu'ils se sont tournés vers le revers à une main, notamment. Grâce à Roger Federer, en regardant jouer Roger Federer. Aujourd'hui, ceux qui dominent, les Djokovic, les Nadal, Sinner ou Alcaraz, les enfants, ils vont s'identifier de plus en plus à des revers à deux mains.
Oui, exactement. De toute manière, il y a beaucoup de mimétisme, chez les jeunes et chez les jeunes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le mimétisme, on a envie de le tourner sur le revers le revers à deux mains. Voilà, effectivement, quand on voyait Gasquet, tout le monde avait envie de faire un revers à une main. Et Gasquet a fait sa carrière avec son revers à une main. Faut savoir dire les choses comme elles sont. Mais un garçon comme Richard aujourd'hui, bon, qui a fait une carrière où c'est un peu plus compliqué physiquement, un peu plus lent et ainsi de suite, un peu moins de puissance et de force, c'est beaucoup dans ce domaine-là aujourd'hui où avant il faisait la différence. Aujourd'hui, il ne la fait plus parce que les joueurs jouent plus fort, jouent plus vite et qu'il arrive tout simplement à moins exprimer tout ce qu'il était capable de faire avant avec son revers. Voilà, mais effectivement, le mimétisme aujourd'hui, ils vont aller sur Sinner, sur Djoko, et sur Medvedev, qui a un revers extraordinaire. Voilà, et puis ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Mais oui, voilà, ce que disaient Vincent et Julien, c'est complètement vrai. C'est que on est quand même toujours sur la gestuelle d'un revers à une main qui est quelque chose qui est très joli, qui est très beau et qui est très pur, et que on a envie de voir ça. Voilà, le spectateur a bien évidemment toujours un penchant pour ce joueur qui a ce revers à une main et qui fait des choses extraordinaires.
Dernière petite question, Julien. J'ai lu que Jimmy Connors avait dit dans un podcast, quand il y avait Federer et qui jouait contre Djoko ou Nadal, on avait de vraies oppositions de style. Alors plus avec Djoko, du coup, parce que c'était dans la diagonale revers, mais la disparition du revers à une main risque de rendre le tennis peut-être un peu plus monotone.
C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Alors ça n'a pas forcément grand-chose à voir en lien direct, mais ça me fait penser en fait à la disparition de la vraie Coupe Davis. Ceux qui ont forcé pour imposer le nouveau système reprochaient à ceux qui voulaient défendre l'ancien d'être trop dans le romantisme et qu'il fallait retrouver le sens des réalités, notamment économiques. Et là, finalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique, mais il y a un petit peu ce côté aussi rentabilité, du coup, qui fait qu'on risque de perdre effectivement ces oppositions qui étaient très riches, avec des jeux qui vont se ressembler de plus en plus. Et je vais passer la parole à Vincent aussi sur ce sujet, parce que lui, un de ses grands regrets aujourd'hui, c'est le fait que toutes les surfaces aient quasiment la même vitesse de jeu, et que là aussi, ça tue un petit peu à la fois le côté créatif et puis les variations en fait, de prise de pouvoir des uns et des autres selon les moments de la saison.
Oui, c'est mon leitmotiv depuis des années. Je pense que l'uniformisation du jeu vient bien sûr des profils des joueurs, mais aussi des surfaces. C'est-à-dire, là, moi, quand j'étais jeune et que je suivais le tennis, la terre battue de Roland était vraiment lente. Le gazon Wimbledon était vraiment rapide. L'US était rapide. Et en fait, ça crée d'abord des spectacles différents. Ça crée des profils différents. Et ça permettait surtout à tous les styles de jeu de s'exprimer. Et cette uniformisation des quatre surfaces, ou on va dire des trois, parce qu'Australie et US, c'est un peu la même chose, avec une accélération des conditions de jeu à Roland, un ralentissement à Wimb. Je rappelle un truc incroyable que tout le monde se moquait à l'époque, mais en fait, il parlait au premier degré. Andy Murray, un jour en conférence de presse à Roland, a dit que le central de Roland était plus rapide que celui de Wimb. Tout le monde a pris ça pour une blague, mais je pense qu'il était très sérieux. Et donc, en fait, ces surfaces moyennes, en termes de rapidité, etc., participe, je pense, au fait que tout le monde joue à peu près de la même manière, quoi, et qu'on assiste quand même peu ou prou toujours à peu près au même match, à peu près, hein, y compris au niveau. Et je pense que c'est autant que le revers à une main et le revers à deux mains, je pense que ces surfaces participent du relatif ennui que l'on peut ressentir en suivant le tennis en 2024.
Et on espère que ça évoluera vers peu plus de spectacles dans les années à venir. On conclut, messieurs, j'aimerais vous demander quelque chose d'un petit peu difficile de choisir. Il va falloir me donner un nom de votre revers à une main préféré. Julien.
Gaston Gaudio.
Vincent.
Ken Rosewall et Roger Federer.
Vincent, il veut jamais en faire un, il écoute pas les consignes.
Exactement. Bon, alors Ken Rosewall pour l'avant Air Open et Roger Federer. Non, on va dire Federer, allez.
Et Laurent, on finit avec toi.
Ah, je vous dirais Richard Gasquet.
Allez, un Français. Richard, pour finir, on se souviendra évidemment, une fois qu'il aura arrêté de jouer sur le circuit, Richard Gasquet, de son revers fabuleux, et on ira voir les highlights sur Internet pour se délecter de tout ça. C'est la fin de cet épisode numéro 3 de Air Open cette saison. Merci Vincent Cognier d'avoir été avec nous. Merci Julien Reboulet.
Merci.
Merci à Laurent Raymond d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était très intéressant sur l'aspect technique. Merci à Marie-Amélie Mott pour l'enregistrement de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Air Open, et en attendant, vous pouvez bien évidemment aller écouter tous les autres podcasts de tous les sports de l'équipe.